Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
J'ai une histoire avec l'entrepreneuriat parce que j'ai commencé très jeune. Mmh. J'ai commencé avec les jobs d'été. Donc la première start-up, comme je dis, il y avait un manque. Moi, j'ai vu qu'il y avait un besoin sur le marché. Mmh. Donc j'ai répondu présent. Donc c'était la partie de dire c'est de la data processing. Et à un moment, je me disais, il y avait des charges, il y avait pas mal de choses. Moi, j'avais des charges à l'époque, il fallait que je les paye, des traites. Et là, ça commence le doute parce que j'ai vendu ma première voiture.
Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte.
Mehdi 1, Karima, Job Story.
Mon invité aujourd'hui, c'est Hamza Bakash. Il est data analyst et entrepreneur social, fondateur de DealKhair.ma, de l'entrepreneuriat engagé et une carrière qui a du sens. Hamza Bakash, bonjour. Ravi de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui.
Bonjour Kalima.
Alors Hamza, avant de parler peut-être entrepreneuriat et ramenez-nous un petit peu à vos premiers pas dans l'univers professionnel. Qu'est-ce que vous avez fait une fois votre diplôme en poche?
Alors moi, j'ai une histoire avec l'entrepreneuriat parce que j'ai commencé très jeune. Mmh. J'ai commencé avec les jobs d'été. Après chaque réussite, par exemple, après mon première année du lycée, deuxième année jusqu'au bac, je faisais des jobs d'été.
D'accord.
Ça m'a forgé, ça m'a donné envie de travailler en tant qu'entrepreneur au lieu d'aller chercher, par exemple, des emplois. Mmh. Mais par contre, après que j'ai obtenu mon diplôme en 2012, mmh. Je me suis lancé en tant que salarié, pour avoir de l'expérience. J'ai travaillé en tant que responsable informatique. Après, j'ai voyagé. J'ai été expatrié dans d'autres pays dans le monde. Mm-hmm. Et j'ai acquis de l'expérience, un portefeuille client, ce qui m'a permis aussi de me lancer rapidement dans l'entrepreneuriat.
D'accord. Et en quoi consistaient vos missions dans l'univers du salariat? Vous avez fait le tour de quoi, en gros?
J'étais data analyst. Mm-hmm. J'ai travaillé un peu dans le domaine de l'analyse des données, le traitement des données.
D'accord.
Et j'ai voyagé beaucoup dans une multinationale. J'étais dans pas mal de pays, auxquels j'ai acquis pas mal d'expérience aussi. Mm-hmm. Quand je suis rentré au Maroc, je me suis dit, j'ai trouvé qu'il y avait toujours un vide au niveau dans l'analyse des données. Il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs qui restaient beaucoup au Maroc à cette époque.
D'accord.
Je me suis dit, c'est le moment de lancer ma première start-up.
D'accord.
Comme ça, au lieu de rester chez une seule boîte, j'ai lancé ma première start-up et j'ai un peu travaillé avec toutes les multinationales qui étaient au Maroc ou toutes les boîtes qui faisaient des études de marché.
Donc à ce moment-là, vous aviez quitté le salariat ou vous étiez dans les deux, un pied dans le salariat, un pied dans l'entrepreneuriat?
Non, j'ai quitté le salariat. D'accord. En 2015.
Ok.
Après, il y avait 3 ans d'expérience, j'ai quitté le salariat et j'ai commencé la première start-up, mm-hmm. Qui tourne jusqu'à aujourd'hui, alhamdoulilah.
D'accord.
La première start-up maintenant, elle est connue en Afrique. Je fais l'analyse des données partout dans l'Afrique. Et j'ai lancé entre-temps, je me suis lancé dans la deuxième aventure, ou l'aventure qui m'est à cœur, c'est DealKhair.
D'accord. Et on va y arriver, on va en parler dans un tout petit moment. Mais question de rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent avec la mission de votre première start-up. Ça consistait en quoi? Alors, vous avez remarqué qu'il y avait un manque. Vous avez fondé cette start-up justement pour venir un petit peu changer la donne en quelque sorte. En quoi consiste la mission de votre première start-up?
Donc la première start-up, comme je dis, il y avait un manque. Moi, j'ai vu qu'il y avait un besoin sur le marché. Mmh. J'ai répondu présent. C'était la partie c'est de la data processing. C'est l'analyse des données. On a digitalisé les questionnaires des études de marché. On les a digitalisés sous forme de tablettes, de smartphones à cette époque. Après, on fait la collecte des données et puis on fait le traitement et on livre les rapports.
D'accord. Donc c'est en quelque sorte un accompagnement de A à Z.
Exactement.
Global.
Donc, puisque donc, les entreprises, donc, les bureaux d'études ne trouvaient pas vraiment beaucoup de personnes ou d'ingénieurs qui font ce travail. Mais je ne dirais pas que c'était facile parce que juste, je me suis lancé, j'ai trouvé les premiers clients. Donc, c'était pas question. Donc, comme ce n'était pas facile de cette manière, parce que donc, déjà, c'est un domaine qui est un peu délicat.
Ouais.
Il faut gagner la confiance des gens parce que c'est de la data des. C'est de la data, donc c'est l'analyse. Il faut vraiment donc gagner la confiance, connaître les personnes.
Et c'est assez spécifique aussi, c'est pas vague. C'est, voilà, c'est le service est assez ciblé, assez spécifique, donc c'est un petit peu difficile.
Ouais, effectivement.
Et justement, le passage peut-être du salariat à l'entrepreneuriat, on en parle souvent dans Job Story, quand voilà, c'est des personnes qui ont quitté l'univers du salariat pour passer à l'entrepreneuriat. Voilà, chacun sa méthode. Il y a des personnes qui préparent ce passage en parallèle, c'est-à-dire qui restent dans le salariat tout en préparant leur aventure entrepreneuriale. Il y en a qui décident de tout quitter du jour au lendemain et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Votre histoire à vous, comment elle s'est faite? Comment s'est passé ce passage ou ce switch du salariat vers l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a eu une réflexion, préparation, ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est bon, c'est le moment, je fonce?
Oui, bah, je suis un peu du deuxième genre.
D'accord.
Donc, comme j'ai dit au début, donc, moi, que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat quand j'étais jeune.
Ouais.
Donc, quand j'étais déjà étudiant, donc, je faisais des jobs d'été. Donc, et je me disais, donc, moi, ce n'est pas le salariat qui m'intéresse. Mm. Moi, je préfère donc, me lancer dans mon propre job, donc, c'est-à-dire avoir ma propre start-up ou ma propre boîte. Et donc, c'est ce que j'ai fait, donc, ce que je faisais à l'époque. Donc, quand j'ai commencé le salariat, donc, je me disais souvent, ma place, elle n'est pas là. Mm. Mais je dois quand même avoir donc, l'expérience, je dois comprendre comment ça fonctionne. Je dois avoir donc, plus de... C'est-à-dire rentrer dans les détails du management.
Ouais.
Et c'est ce que je faisais, mais quand j'étais même salarié, donc, je me disais, c'est pas ma place. Donc, ici, c'est pas ma place. Il faut que je me prépare, donc, faut que je dois juste saisir le bon moment. Donc ouais. j'attendais le bon moment pour me lancer, mais aussi donc je prenais donc des décisions, donc quand j'étais salarié, donc j'avais ce sens par exemple de prendre des décisions, de prendre la responsabilité même quand j'étais jeune.
Ouais.
Donc je me lançais, je dis ouais, je peux le faire, je sais le faire, comptez sur moi, donc il n'y a pas de problème. Donc, je pouvais prendre la décision tout seul, donc sans revenir vers le c'est-à-dire le top management, mon N+1, ce qui me donnait cette possibilité de me lancer sans avoir peur d'échec.
Ouais, et aussi parce que vous aviez cette fibre entrepreneuriale, pardon Hamza, parce que c'est quelque chose que vous aviez en vous finalement.
Exactement. Moi, je dis souvent, l'entrepreneuriat, c'est un mindset.
Ouais.
Il faut avoir le courage de le faire parce que c'est pas juste, c'est pas une tendance.
Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est bien
chose,
de le souligner.
C'est pas une tendance. Exactement, c'est pas une tendance. C'est quelque chose qu'on doit avoir on doit savoir. On doit dire, avant de commencer, il faut vraiment poser un petit questionnaire ou, comme on dit, une petite étude de marché pour dire, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que c'est mon domaine? Est-ce que moi, je suis capable de gérer, par exemple, d'avoir géré le stress de tout le monde, pas juste mon stress, mais le stress de toute l'équipe, le stress de toute la boîte?
Ouais.
Est-ce que je suis capable, par exemple, d'encaisser les échecs? Si je tombe un jour, est-ce que je peux me relever?
Ouais.
C'est pas juste comme ça, oui. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment... rose, en quelque sorte.
Ouais, bien sûr que non, bien au contraire même, parce que c'est bien de parler, je pense, de cet aspect de l'entrepreneuriat, parce que généralement on a vu que c'est aussi des fois ça fait un petit peu l'effet mode, donc les gens pensent que voilà, je suis mon propre boss, je gère tout seul, voilà, j'ai personne qui me dit voilà ce que je dois faire ou quand je dois travailler, etc. Mais l'entrepreneuriat, c'est bien au-delà de tout ça, et c'est beaucoup 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 d'efforts, beaucoup de travail. C'est pas pas de week-end, pas de vacances pendant très longtemps.
Exactement.
Pas de rentrée d'argent. Voilà, il faut aussi en parler parce que c'est pas, ça ne vient pas en un claquement de doigts.
Bah exactement. Moi, j'ai une anecdote comme ça quand je me suis lancé, comme j'ai dit. Donc, moi, en fait, ce qui m'a permis, parce que j'étais proche quand même de mon ex-boss, et je voyais comment ça fonctionne. Mais je me disais, mais c'est pas du tout vraiment, c'est pas du tout, parce que c'était le PDG, donc c'est pas du tout vraiment la vie est belle. Il avait aussi ses problèmes, donc j'ai pu donc être proche de lui, donc j'ai remarqué comment ça fonctionne, comment ça tourne, comment il fait pour régler les problèmes. Quand il y a vraiment un problème à la fin du mois, et nous les salariés n'ont pas touché par exemple les salaires à temps, donc comment il gère, comment il jongle avec ça, comment il peut régler le problème. Et comme vraiment, c'était quelque chose de bénéfique pour moi parce que ça m'a permis de dire il y a pas de souci. Pour chaque problème, il y a toujours une solution à la fin.
Exactement, exactement.
Il faut juste savoir gérer.
Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Et se donner les moyens de justement trouver des solutions. On reste justement dans ce passage du salarié à l'entrepreneuriat. Hamza, est-ce que vous encouragez, vu qu'on est en train d'en parler, est-ce que vous encouragez les jeunes peut-être qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat à faire les premiers pas dans le salariat? C'est-à-dire question d'acquérir un peu d'expérience, etc. Par rapport à votre propre expérience professionnelle, est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez justement?
Absolument. Absolument. Donc, il faut toujours passer par le salariat avant de se lancer. Parce que oui, on peut avoir l'envie, par exemple, de devenir entrepreneur. On peut avoir ce mindset. Mais en fait, on ne connaît pas beaucoup de choses dans le monde de start-up ou dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut savoir comment gérer une équipe, comment se confronter à d'autres personnes. Ouais. Il faut savoir, par exemple, tout ce qui est administratif. Comment régler les problèmes administratifs, comment parler avec des banques, comment négocier. Donc, et tout ça, on ne peut pas l'avoir. C'est-à-dire, une seule personne ne peut pas avoir toutes ses compétences.
Donc, c'est le terrain, finalement, qui nous apprend ce genre de choses.
Exactement. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas juste le diplôme, ce n'est pas juste l'école, mais il faut aussi aller sur le terrain, donc comprendre comment ça fonctionne et vraiment se donner à fond. Ouais. Moi, ce que je donne comme conseil maintenant aux jeunes, c'est quand vous êtes, par exemple, salarié, il faut se donner à fond. Ce n'est pas les 8 heures qui vont vous faire gagner de l'argent ou de l'expérience. C'est quand je dis qu'il faut se donner à fond, c'est-à-dire il faut vraiment connaître bien le métier, comprendre chaque détail, aller par exemple prendre le risque. C'est pas juste oui, moi je suis que salarié, donc c'est pas à moi de prendre cette responsabilité. Donc il faut prendre le risque, il faut aussi proposer, donc avoir une valeur ajoutée dans la boîte.
Ouais.
Et c'est comme ça qu'on se dit est-ce que vraiment je suis prêt à se lancer ou pas.
Ouais. C'est vrai. Et même si ça ne nous apporte pas grand-chose, par exemple, on va dire dans un scénario, ça ne nous apporte pas grand-chose sur le plan de l'entreprise, mais au moins on apprend. Et ça n'a pas de prix, l'apprentissage qu'on gagne après, ça n'a pas de prix. Il ne faut pas se faire baisser les bras.
Exactement. Il faut jamais, par exemple, prendre les choses. Il faut pas les comparer, par exemple. C'est pas de l'argent qui va, comme on dit, c'est pas de l'argent qui nous rend heureux. Mais c'est vrai parce que c'est à la fin. C'est ce qu'on va acquérir.
Ouais.
Oui, c'est pas juste, c'est l'expérience, c'est beaucoup de choses au fait. Moi, je vais parler un peu de l'aspect, c'est-à-dire mental. Voilà. Donc c'est comment tu vas gérer les choses après, et après comment tu vas gérer les choses, comment tu vois les choses. Comment tu veux vraiment aller de l'avant et comment tu traces ton chemin.
Ouais. Et ça forge la personnalité aussi.
Exactement.
Ouais. Et donc l'entrepreneuriat, Hamza, ça a toujours été, on en a parlé un petit peu, une volonté, quelque chose que vous aviez en vous. Vous avez commencé jeune, vous avez fondé votre première start-up et ensuite vous fondez dilkhir.ma. Parlez-nous cette fois de sa mission, le pourquoi du comment et justement pourquoi avoir mêlé social et entrepreneuriat.
Alors, Dilkhir, c'est une aventure qui a commencé en 2018. Donc, j'ai commencé à réfléchir. Donc, j'ai dit, j'ai une idée sur laquelle je travaille, mais c'est pas encore clair dans ma tête, mais je dois encore la bosser. Mais c'était toujours parce que je travaillais dans l'aspect, par exemple, j'étais militant dans pas mal d'associations qui travaillent dans la partie environnement.
D'accord.
Mais en même temps, je faisais du volontariat dans des associations pour aider. Je trouvais qu'il y avait toujours un problème au niveau de l'associatif, donc c'est le problème des ressources. Ils n'avaient pas d'argent, donc comment avoir de l'argent au niveau de l'association, comment réaliser les projets. Il y avait des projets qui étaient vraiment ambitieux où je voulais participer. Je disais, c'est malheureux, franchement c'est dommage parce qu'on cherchait toujours comment avoir de l'équilibre, donc avoir des projets associatifs, donc de faire du volontariat, mais en même temps d'avoir les ressources pour réaliser ces projets.
Ouais.
Et moi, donc j'avais une idée que j'ai commencé à travailler en 2018, donc j'ai fait l'étude de marché, j'ai regardé ailleurs dans d'autres pays, mais après j'ai dit, et là c'est Covid qui arrive, et c'était vraiment, on peut dire c'est un peu le hasard, ou c'est de la chance, parce que Covid qui arrive, et comme il y avait ma cofondatrice qui travaillait dans un orphelinat, et elle a reçu un coup de fil, donc c'était fermé, mais elle a reçu un coup de fil pour recevoir un don d'un chocolatier de luxe. Mmh. Il m'a dit, nous, on leur fait dire, on avait besoin d'argent, on a besoin de nourriture, on a besoin de vêtements, on a besoin d'autres choses, mais pas de chocolat maintenant. Nous, on a commencé à travailler l'idée. Je dis, voilà, c'est maintenant qu'on peut travailler l'idée. Maintenant, c'est un peu clair. Et on s'est lancé, donc Dilkhir, on l'a lancé en 2021, juste après Covid, au moment de Covid, comme marketplace solidaire, où les entreprises, elles peuvent faire leur temps ou même vendre leurs produits et services sur la plateforme, et ce qui va nous permettre aussi donc, de financer des projets associatifs avec.
Excellent.
Donc ça, on a commencé avec cette idée donc, en 2021, on a commencé à travailler sur le test de concept, donc on a vu qu'il y avait vraiment pas mal d'entreprises qui étaient vraiment d'accord de vendre, ils ont à bras ouverts, ils ont dit donc, oui, on fonce avec vous, c'est très intelligent, nous ça nous intéresse aussi de vendre de cette manière, d'avoir une image qui est responsable, et aussi donc, d'aider des associations qui sont vraiment dans le besoin. Mmh. Exactement. Donc ça a commencé en 2021 jusqu'à 2023. Donc fin 2023, après le séisme, on a trouvé qu'il y avait des limites dans ce business model. Mm-hmm. Et on a commencé à penser au pivot. Donc le pivot, donc il a commencé en 2024. Donc on a commencé à travailler juste après le séisme. Mm-hmm. Notre dernier kit qu'on a vendu dans le séisme, c'était un kit chaleur et lumière. Où on a vendu des lampes solaires pour aider les gens du house. Mm-hmm. C'est notre contribution. Donc il n'y avait pas de marge là-dessus. On a vendu des kits avec des lampes solaires qui étaient vraiment avec d'autonomie de 8 heures d'autonomie. Excellent. qu'on a envoyé à la région du house. Mm-hmm. Et on a dit donc pour aider donc avec notre contribution, il n'y avait pas de marche. Et c'est une association qui était sur Marrakech qui s'est occupée de toute la partie donc distribution et voilà donc ramassage. Mmh. Et après donc en 2024 donc nous avons pivoté pour un nouveau business model, c'est qu'on a créé une API, donc on a vraiment donc travaillé sur l'aspect technologique. Et c'est une API qui s'intègre directement sur les plateformes des entreprises, c'est-à-dire des partenaires. Mmh. Et maintenant, c'est chaque achat, chaque achat génère un don pour une association. Et c'est les entreprises qui choisissent les associations à qui ils veulent donner, donc à qui ils veulent soutenir. Et notre rôle s'arrête ici, par exemple, c'est juste de sourcer les associations et de les mettre en relation avec les entreprises qui veulent les soutenir. Et directement, c'est à travers la vente en ligne, c'est-à-dire chaque achat sur la plateforme des partenaires génère un don pour une association.
Parfait, c'est excellent Hamza, et c'est tout à votre honneur d'avoir justement opté pour, on va dire, cette forme d'entrepreneuriat. Donc non seulement c'est de l'entrepreneuriat, mais c'est de l'entrepreneuriat engagé, comme je l'ai dit au tout début de notre discussion, et franchement bravo pour ça.
Merci.
Et tout au long de votre carrière et surtout de votre choix peut-être entrepreneurial, ce que vous faites, c'est noble. Qu'a pensé votre entourage de tout ça? Et surtout peut-être de ce passage vers l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a eu des encouragements? Est-ce qu'il y a eu des réticences? Voilà, rapprochez-nous un petit peu de l'impact peut-être qu'a eu votre entourage sur votre orientation.
Alors aujourd'hui, je pense que je vais être un peu... C'est un très bon sujet, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est un peu, on veut dire, c'est ma vie maintenant, donc l'entrepreneuriat, c'est un peu ma vie. Moi, quand j'ai commencé, c'était un peu difficile. Ouais. J'ai laissé un job qui était vraiment très bien payé à l'époque. Moi, comme je disais, à l'époque, donc en 2014, 2015, il n'y avait pas ces salaires, mais moi, j'étais très bien payé à l'époque, alhamdoulilah. Mais j'avais vraiment, mes parents qui n'étaient pas d'accord que je lâche mon job ou que je lâche le salariat et que tout ce que j'avais comme avantage et que je me lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Et surtout, comme j'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas d'accompagnement, il n'y avait pas de levée de fonds, il n'y avait pas, donc, beaucoup de choses.
C'était compliqué,
Donc c'était compliqué à l'époque, c'était vraiment on appelait ça à l'époque c'était une SARL, donc c'était de la PME. Mm. Du coup, donc comme je disais, donc vraiment mes parents n'étaient pas d'accord. C'était dur au début parce que moi, genre quand j'ai quitté, donc j'ai passé quand même quelques temps à la maison, donc je me lève pas beaucoup, c'est-à-dire pas tôt le matin, donc, et du coup, donc, bah, pour mes parents, c'était un peu donc dur. Comment ça se fait que tu lâches ton job, maintenant tu n'as pas de travail, qu'est-ce que tu fais de ta journée, tout ce que tu as économisé, maintenant tu vas juste le claquer comme ça, et après donc tu vas te retrouver donc à sec et retourner à chercher du job, et tu vas pas trouver ce que tu avais comme avantage à l'époque. Et comme je disais, moi, donc, au bout de, c'est-à-dire en quelques années, donc, moi, j'ai pu avoir la confiance de mes patrons. J'ai voyagé, j'ai même géré des projets sur, au niveau, à l'échelle internationale. Et j'ai même travaillé un an dans un pays, donc, à l'étranger, donc, comme expatrié. Et donc, voilà, donc, avec des avantages, donc, soit au niveau du salaire, soit au niveau, donc, ça veut dire des charges. Et pour mes parents, donc c'était vraiment donc no way, donc moi donc j'avais du doute à l'époque. Donc quand j'ai commencé, donc je crois, donc je me suis lancé en mars 2015, je me souviens, donc j'ai fait genre 3 mois de pause. Et après, en mars 2015, donc j'ai lancé, donc j'ai créé la boîte et j'ai commencé à chercher mes premiers clients. Et donc c'était pas facile, donc le premier client, j'ai pas pu l'obtenir, je crois presque un mois donc de travail, donc d'envoi, de préparer les présentations, donc de travailler sur donc les emails, d'envoyer des emails, et c'était difficile. Sauf et à un moment, donc je me disais, donc il y avait des charges, il y avait pas mal de choses, moi j'avais des charges à l'époque, fallait que je les paye, j'avais des traites, et là ça commence le doute, parce que j'ai vendu ma première voiture. Bon, j'avais une voiture à l'époque. Et là donc j'avais besoin de BFR, donc je me disais quoi, hein, c'est bon, la voiture elle est à vendre. Et là, je commence pour mes parents, donc c'était vraiment, donc voilà, ils avaient raison, j'avais tort, voilà, ça commence à se concrétiser, regarde ce que tu es en train de faire, tu n'as plus de voiture pour le moment, comment tu vas faire pour acheter une nouvelle voiture ou une belle voiture comme tu avais à l'époque. J'ai dit, c'est moi qui fais l'argent, c'est pas l'argent qui me fait, donc voilà, donc je vais encore travailler, donc je vais bosser, je vais avoir encore une voiture. Ne vous inquiétez pas. C'était dur, donc j'ai commencé à sortir de chez moi, donc le matin, comme si j'avais un job. Je quitte la maison m'éloigner de ces ondes négatives. Ouais. On n'est plus en train de dire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu n'as rien à faire? Est-ce que tu n'as pas encore trouvé? Est-ce que tu cherches à travailler? Donc il faut vraiment refaire ton CV, aller chercher, donc. Tout ça, donc je m'éloigne chaque jour, je sors de chez moi, je m'installe dans un café et je commence à travailler de 8h et je rentre chez moi juste après 20h pour dire que c'était une longue journée, une journée dure et que voilà, donc ouais. Comment ça se passe? Très bien, tout va bien, ça va venir. Ça a pris, je crois, donc un an et demi sans voiture et j'ai commencé à avoir des clients, bien sûr, entre temps, donc j'ai commencé à travailler, donc. Et petit à petit, donc ça a commencé. Donc je crois après un an et demi, donc j'ai acheté j'ai pu racheter une voiture, pas comme ce que j'avais à l'époque.
C'est pas grave.
Mais c'est pas grave. Ouais. Donc, au moins c'est un moyen de transport qui me permet de bouger, d'aller voir les clients, d'aller rencontrer d'autres clients.
C'est excellent et ça prouve encore une fois que l'effort finit toujours. Toujours par payer, Hamza.
Exactement. Alhamdoulilah, oui, exactement, c'est ça.
Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, d'avoir partagé votre histoire. C'était vraiment un plaisir. Et puis, je vous souhaite beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah.
Merci beaucoup, Karima.
À bientôt.
Et merci à vous.
Avec plaisir, à bientôt. Ciao, ciao.
Au revoir, ciao.
Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média en podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.